L'impôt progressif au XXe siècle, l'éphémère produit du chaos. Revenons en arrière et essayons de mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là. Tout d'abord, il est important de réaliser que l'impôt progressif au XXe siècle est le produit des guerres, au moins autant que celui de la démocratie. L'impôt progressif a été mis en place dans le chaos et l'improvisation, ce qui explique au moins en partie pourquoi il n'a pas suffisamment été pensé dans ses différentes missions et pourquoi il est remis en cause aujourd'hui. Certes, l'impôt progressif sur le revenu a été institué dans de nombreux pays avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Si l'on excepte le cas de la France où le vote de la loi du 15 juillet 1914 créant l'impôt général sur le revenu est directement dicté par les impératifs financiers du conflit qui s'annonce. La loi était enterrée au Sénat depuis des années et seule l'imminence de la déclaration de guerre débloque la situation. La création se fait en général à froid, dans le cadre du jeu normal des institutions parlementaires, comme en 1909 au Royaume-Uni et en 1913 aux États-Unis. En Europe du Nord, dans plusieurs États allemands, au Japon, la création de l'impôt progressif sur le revenu est encore plus précoce. 1870 au Danemark, 1887 au Japon, 1891 en Prusse, 1903 en Suède. Autour de 1900-1910, même si l'impôt sur le revenu ne concerne pas encore tous les pays développés, un consensus international est en passe de se dégager autour du principe de progressivité et de son application au revenu global, c'est-à-dire à la somme des revenus du travail, salariaux et non salariaux, et des revenus du capital de toute nature, loyers, intérêts, dividendes, profits, parfois plus-values. Il faut souligner que l'impôt progressif vise avant tout à imposer les très hauts revenus du capital, dont chacun est bien conscient à l'époque qu'il domine la hiérarchie des revenus, et qu'il ne serait venu à l'idée de personne dans aucun pays de leur accorder des exemptions particulières. Un tel système apparaît à beaucoup comme une façon à la fois juste et efficace de répartir les impôts. Le revenu global mesure la capacité contributive de chacun et la progressivité permet d'envisager une limitation des inégalités produites par le capitalisme industriel, tout cela dans le respect de la propriété privée et des forces de la concurrence. De multiples rapports et livres publiés à cette époque contribuent à populariser l'idée et à convaincre une partie des élites politiques et des économistes libéraux, même si beaucoup resteront très hostiles au principe même de la progressivité, notamment en France. L'impôt progressif sur le revenu serait-il donc l'enfant naturel de la démocratie et du suffrage universel? Les choses sont plus compliquées. On constate en effet que les taux appliqués, y compris au niveau des revenus les plus astronomiques, demeurent extrêmement modérés jusqu'à la Première Guerre mondiale. Cela vaut pour tous les pays sans aucune exception. L'ampleur du choc politique entraîné par la guerre apparaît de façon particulièrement claire sur le graphique 14.1, sur lequel nous avons représenté l'évolution du taux supérieur, c'est-à-dire le taux appliqué sur les revenus plus élevés, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France de 1900 à 2013. On voit que le taux supérieur stagne à des niveaux insignifiants jusqu'en 1914, puis monte en flèche à l'issue du conflit. Ces évolutions sont représentatives des trajectoires observées dans l'ensemble des pays riches. Le taux supérieur est généralement un taux marginal, dans le sens où il ne s'applique qu'à la marge, c'est-à-dire à la fraction de revenus supérieure à un certain seuil. Le taux supérieur concerne généralement moins de 1% de la population, parfois moins de 0,1%. Et il est préférable, pour avoir une vision complète de la progressivité, d'examiner les taux effectifs acquittés par les différents centiles, qui peuvent être nettement inférieurs. L'évolution du taux supérieur n'en est pas moins intéressante, et il s'agit par définition d'une borne supérieure du taux effectif pesant sur les plus riches. En France, dans le cadre de l'impôt sur le revenu créé en 1914, le taux le plus élevé n'est que de 2%. Et il ne concerne qu'une infime minorité de contribuables. Ce n'est qu'après la guerre, dans un contexte politique et financier radicalement transformé, que le taux supérieur sera porté à un niveau moderne, 50% en 1920, puis 60% en 1924, et même 72% en 1925. il est particulièrement frappant de constater que la loi décisive du 25 juin 1920, qui porte le taux supérieur à 50% et qui peut véritablement être assimilée à une seconde naissance de l'impôt sur le revenu, est adoptée par la Chambre Bleu Horizon, l'une des chambres les plus à droite de toute l'histoire de la République, et la majorité dite du Bloc National, c'est-à-dire par une majorité constituée pour une large part des groupes parlementaires qui, avant la Première Guerre mondiale, s'étaient le plus farouchement opposés à la création d'un impôt sur le revenu avec un taux supérieur de 2%. Ce revirement complet des députés, situés dans la partie droite de l'échiquier politique, s'explique évidemment par la situation financière désastreuse héritée de la guerre. L'État a accumulé durant le conflit des dettes considérables, et au-delà des discours rituels sur le thème « l'Allemagne paiera », tout le monde se rend bien compte qu'il est indispensable de trouver des ressources fiscales nouvelles. Dans un contexte où les pénuries et le recours à la planche à billets ont porté l'inflation à des niveaux inconnus avant la guerre, où les salaires ouvriers n'ont toujours pas retrouvé leur pouvoir d'achat de 1914 et où plusieurs vagues de grèves menacent le pays de paralysie en mai-juin 1919, puis de nouveau au printemps de 1920, on a l'impression que la couleur politique importe peu. Il faut trouver des ressources fiscales nouvelles et on imagine mal que les titulaires de hauts revenus soient épargnés. C'est dans ce contexte politique chaotique et explosif, marqué également par la révolution bolchevique de 1917, que l'impôt progressif est né sous sa forme moderne. Le cas de l'Allemagne est particulièrement intéressant car l'impôt progressif sur le revenu existe depuis plus de 20 ans quand éclate la guerre. Or, les taux d'imposition n'ont jamais été relevés de façon significative pendant la période de paix. En Prusse, le taux supérieur est totalement stable à 3% de 1891 à 1914, puis passe à 4% de 1915 à 1918, avant d'être brutalement relevé à 40% en 1919-1920, dans un contexte politique radicalement différent. Aux États-Unis, qui était pourtant le pays le plus prêt intellectuellement et politiquement pour une fiscalité lourdement progressive et qui prend la tête du mouvement dans l'entre-deux-guerres, il faut également attendre 1918-1919 pour que le taux supérieur soit subitement porté à 67%, puis 77%. Au Royaume-Uni, le taux applicable aux revenus les plus élevés avait été fixé à 8% en 1909, ce qui était relativement haut pour l'époque. Mais il faut aussi attendre la fin de la guerre pour qu'il soit soudainement porté à plus de 40%. Il est bien sûr impossible de dire ce qui serait arrivé sans le choc de 1914-1918. Sans doute un mouvement était-il lancé, mais il paraît évident que cette marche en avant vers la progressivité aurait à tout le moins été beaucoup plus lente et peut-être n'aurait-elle jamais atteint ce niveau. Les taux pratiqués avant 1914, qui sont toujours inférieurs à 10% et généralement inférieurs à 5%, y compris pour les revenus les plus élevés, ne sont en réalité pas très différents des taux appliqués au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. Il faut en effet rappeler que si l'impôt progressif sur le revenu global est une création de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, il existe des formes beaucoup plus anciennes d'imposition des revenus, généralement avec des règles différentes suivant les revenus, et le plus souvent avec des taux proportionnels ou quasi-proportionnels, par exemple avec un taux fixe au-delà d'un abattement. Dans la plupart des cas, les taux sont de l'ordre de 5%, 10% au maximum. C'est le cas par exemple du système d'imposition cédulaire, c'est-à-dire avec des taux séparés pour chaque catégorie ou cédule de revenus, rente foncière, intérêts, profits, salaires, etc., mis en place au Royaume-Uni en 1842 et qui tient lieu d'impôt britannique sur le revenu jusqu'à la création, en 1909, de la super tax, impôt progressif sur le revenu global. En France, sous l'Ancien Régime, il existe également différentes formes d'impôts directs sur les revenus, comme la taille, le dixième et le vingtième, avec typiquement des taux de 5% ou 10%, comme leur nom l'indique, s'appliquant à des assiettes plus ou moins incomplètes et avec des exceptions parfois nombreuses. Le projet de Dixme Royal, proposé en 1707 par Vauban, qui visait à taxer la totalité des revenus du royaume, y compris la rente foncière aristocratique et ecclésiastique, à un taux de 10%, ne sera jamais totalement appliqué. ce qui n'empêche pas le système fiscal de connaître quelques perfectionnements au cours du XVIIIe siècle. Par rejet pour les procédés inquisitoriaux associés à la monarchie, et sans doute aussi afin d'éviter à la bourgeoisie industrielle en plein essor d'avoir à payer des impôts trop importants, le législateur révolutionnaire a ensuite choisi d'instituer une fiscalité indiciaire, dans le sens où l'impôt dû était calculé à partir d'indices censés mesurer la capacité contributive du contribuable, et non à partir du revenu lui-même, qui n'a jamais à être déclaré. Par exemple, la contribution des portes et fenêtres est calculée en fonction du nombre de portes et de fenêtres de l'habitation principale du contribuable, indicateur d'aisance qui a le grand mérite pour le contribuable de permettre au fisc de déterminer l'impôt dû sans avoir à pénétrer dans sa maison, et encore moins dans ses livres de comptes. L'impôt le plus important du nouveau système créé en 1792, la contribution foncière, est calculé en fonction de la valeur locative de toutes les propriétés foncières possédées par le contribuable. Le montant de l'impôt est fixé à partir d'estimations de valeur locative moyenne révisées lors des grandes enquêtes décennales organisées par l'administration fiscale pour recenser l'ensemble des propriétés du territoire, si bien que le contribuable n'a pas à déclarer le revenu réellement perçu chaque année. Compte tenu de la faible inflation, cela importe peu. En pratique, cette taxe foncière s'apparente à un impôt proportionnel sur la rente foncière et n'est pas très différent de l'impôt cédulaire britannique. Le taux effectif varie suivant les périodes et les départements, sans jamais dépasser 10%. Pour compléter le système, la Troisième République naissante décide de créer en 1872 un impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Il s'agit d'un impôt proportionnel, s'appliquant aux intérêts, dividendes et autres revenus financiers, alors en plein essor en France et presque entièrement exonérés d'impôts, alors qu'ils sont couverts par le système cédulaire britannique. Mais là encore, le taux est fixé à un niveau extrêmement modeste, 3% de 1872 à 1890, puis 4% de 1890 à 1914. Tout du moins par comparaison au taux observé à partir du début des années 1920. Jusqu'au premier conflit mondial, dans tous les pays développés, on semble considérer qu'un taux d'imposition raisonnable ne doit jamais dépasser 10%, quel que soit le niveau des revenus concernés, si élevé soit-il. La question de l'impôt progressif sous la Troisième République. Il est intéressant de noter qu'il en va de même pour l'impôt progressif sur les successions, qui est avec l'impôt sur le revenu la deuxième innovation fiscale importante du début du XXe siècle, et dont les taux restent également relativement modérés jusqu'en 1914. Voir graphique 14.2. Le cas de la France sous la Troisième République est là encore emblématique. Voici un pays qui est supposé entretenir une véritable passion avec l'idée d'égalité, où le suffrage universel masculin a été réinstitué en 1871, et qui pourtant refuse avec obstination pendant près d'un demi-siècle de basculer franchement dans la progressivité fiscale, et où seule la Première Guerre mondiale viendra vraiment modifier les attitudes. Certes, l'impôt successoral institué par la Révolution française, strictement proportionnel de 1791 à 1901, devient progressif à la suite de la loi du 25 février 1901. Mais en réalité, cela ne change pas grand-chose. Le taux le plus élevé est fixé à 5% de 1902 à 1910, puis à 6,5% de 1911 à 1914, et il ne s'applique qu'à quelques dizaines de fortunes chaque année. Une telle ponction fiscale apparaît exorbitante aux yeux des contribuables fortunés de l'époque, qui ont souvent tendance à considérer qu'un fils succédant à son père ne fait en réalité qu'accomplir un devoir sacré de perpétuation d'une même propriété familiale, et que cette simple perpétuation ne devrait donner lieu à aucune imposition. Mais en réalité, cela n'empêche pas les patrimoines les plus élevés de se transmettre dans leur quasi-totalité d'une génération sur l'autre. Le taux effectif moyen au niveau du centile supérieur de la hiérarchie de l'héritage ne dépasse pas 3% après la réforme de 1901, contre 1% dans le régime proportionnel en vigueur au XIXe siècle. Si l'on examine les choses avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, il est évident qu'une telle réforme ne peut guère avoir d'impact sur le processus d'accumulation et d'hyperconcentration patrimoniale à l'œuvre au cours de cette période, quoi qu'aient pu en penser les contemporains. De façon générale, il est frappant de constater à quel point les opposants à la progressivité, nettement majoritaires parmi les élites économiques et financières dans la France de la Belle Époque, utilisent en permanence, non sans une certaine dose de mauvaise foi, l'argument d'une France naturellement égalitaire et qui n'aurait donc nullement besoin d'un impôt progressif. Un exemple particulièrement représentatif et éclairant est celui de Paul Leroy-Beaulieu, qui est l'un des économistes les plus influents de l'époque et qui publie en 1881 son fameux essai sur la répartition des richesses et sur la tendance à une moindre inégalité des conditions. Ouvrage qui sera constamment réédité jusqu'au début des années 1910. À dire vrai, Leroy-Beaulieu ne dispose d'aucune donnée, d'aucune source susceptible de démontrer la tendance à une moindre inégalité des conditions. Qu'à cela ne tienne, il se met à imaginer des raisonnements douteux et peu convaincants, à partir de données totalement inadaptées pour démontrer coûte que coûte que l'inégalité des revenus est en voie de diminution. Par moments, il semble lui-même se rendre compte que son raisonnement ne tient pas, et il indique alors qu'une telle évolution ne saurait tarder, et que, dans tous les cas, il ne faut surtout pas interférer en aucune façon avec ce processus merveilleux de la mondialisation commerciale et financière qui permet à l'épargnant français d'investir dans le canal de Panama, aussi bien que dans le canal de Suez, et bientôt dans la Russie des Tsars. De toute évidence, Leroy-Beaulieu est fasciné par la mondialisation de son temps, et il est tétanisé à l'idée qu'une révolution brutale puisse tout remettre en cause. Une telle fascination n'a bien sûr rien de répréhensible en soi, à condition qu'elle n'empêche pas d'analyser sereinement les enjeux de son époque. Le grand enjeu en France dans les années 1900-1910 n'est pas l'imminence d'une révolution bolchevique, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais plus modestement la création d'impôts progressifs. Pour Leroy-Beaulieu et ses collègues dits du centre-droit, par opposition à la droite monarchiste, il faut à tout prix s'y opposer avec un argument implacable. La France est un pays égalitaire grâce à l'œuvre de la Révolution française qui a redistribué quelque peu les terres et surtout qui a institué l'égalité devant le code civil, l'égalité face aux droits de propriété et à la capacité à contracter librement. La France n'a donc nullement besoin d'un impôt progressif et spoliateur. Certes, ajoute-t-il, de tels impôts seraient bien utiles dans les sociétés de classe des sociétés aristocratiques, comme le Royaume-Uni voisin, mais pas chez nous. Un autre argument classique de l'époque est que la technique inquisitoriale de la déclaration de revenus ne peut convenir qu'à un pays autoritaire comme l'Allemagne, mais serait immédiatement rejetée par un peuple libre comme celui de la France. En l'occurrence, il aurait suffi que Leroy-Beaulieu consulte les nouveaux dépouillements successoraux publiés par l'administration fiscale peu après la réforme de 1901 pour constater que la concentration des patrimoines est quasiment aussi forte dans la France républicaine de la Belle Époque qu'au Royaume-Uni monarchique. Lors des débats parlementaires de 1907-1908, les partisans de l'impôt sur le revenu font d'ailleurs fréquemment référence à ces statistiques. Il s'agit d'un exemple intéressant montrant qu'un impôt, même appliqué avec des taux faibles, peut être une source de connaissance et de transparence démocratique. Dans les autres pays, on constate également que la Première Guerre mondiale marque une nette rupture dans l'histoire de l'impôt successoral. En Allemagne, la question de l'introduction d'une fiscalité minimale sur les plus hautes transmissions patrimoniales est très présente dans les débats parlementaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les responsables du Parti social-démocrate, à commencer par August Bebel et Edouard Bernstein, soulignent que l'impôt successoral permettrait d'alléger les lourds impôts directs acquittés par les ouvriers et les autres classes salariées, qui auraient ainsi plus de moyens pour améliorer leur sort. Mais les débats au Reichstag échouent. Les réformes de 1906 et 1909 aboutissent à la création d'une maigre fiscalité successorale, mais les transmissions en ligne directe et entre époux, c'est-à-dire l'immense majorité des cas, restent entièrement exemptées, quel que soit leur montant. Il faut attendre 1919 pour que l'impôt successoral allemand concerne les transmissions familiales, avec un taux supérieur qui est subitement porté de 0% à 35% pour les successions les plus importantes. Le rôle de la guerre et des ruptures politiques qu'elle engendre paraît absolument décisif. Sans elle, on voit mal pourquoi et comment les blocages de 1906-1909 auraient été surmontés. On notera toutefois sur le graphique 14.2 un léger frémissement britannique à la hausse à la Belle Époque, plus net encore pour l'impôt sur les successions que pour l'impôt sur les revenus. Le Royaume-Uni, qui depuis la réforme de 1896 applique déjà un taux supérieur de 8% sur les transmissions les plus élevées, passe à 15% en 1908, ce qui commence à être substantiel. Aux États-Unis, l'impôt fédéral sur les successions et donations n'est institué qu'en 1916, mais son taux monte très vite à des niveaux supérieurs à ceux appliqués en France et en Allemagne.